Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Écoute téléphonique. Le 13 mars, au lendemain de l'Anschluss, les services secrets britanniques surprirent une curieuse comédie téléphonique entre l'Angleterre et l'Allemagne. Monsieur Ribbentrop, se plaignait Göring en charge du Reich, tandis qu'Hitler volait vers sa patrie. Cette affaire d'ultimatum dont nous menacerions l'Autriche est un abominable mensonge. Seyss Inquart, porté au pouvoir par l'assentiment populaire, nous demande de l'aide. Si vous saviez la brutalité du régime de Schuschnigg. Et Ribbentrop de répondre. C'est incroyable, il faut que le monde entier sache. La conversation se poursuivit sur ce ton pendant une bonne demi-heure. Et il faut imaginer la tête de ceux qui notèrent ces phrases étranges et qui durent avoir l'impression d'être soudain dans les coulisses du théâtre. Puis le dialogue s'achève. Göring évoque le temps radieux, le ciel bleu, les oiseaux. Il est sur son balcon, dit-il, et il peut entendre à la radio l'enthousiasme des Autrichiens. C'est merveilleux, s'écrie Ribbentrop. 7 ans plus tard, le 29 novembre 1945, on entendit à nouveau le même dialogue. C'étaient les mêmes mots, moins hésitants peut-être, plus écrits, mais c'étaient exactement les mêmes paroles désinvoltes, le même sentiment de dérision. Cela se passe à Nuremberg, au tribunal international. L'accusateur des États-Unis, Sidney Alderman, afin d'étayer l'accusation de complot contre la paix, sort de son dossier une liasse de feuilles. Cette conversation entre Ribbentrop et Göring lui semble très éclairante. On y entend une sorte de double langage, visant à induire en erreur les autres nations. Alderman commença alors sa lecture. Il lit le petit dialogue, comme on lit des répliques de théâtre. Si bien que lorsqu'il prononça le nom de Göring, nommant le premier personnage, le véritable Göring, dans le box des accusés, fit mine de se lever. Mais il comprit très vite qu'on ne l'appelait pas. On allait simplement jouer son rôle devant lui et relire les tirades. D'une voix monocorde et pesante, Alderman lut la petite scène. Göring. Monsieur Ribbentrop, comme vous le savez, le fourreur m'a confié la charge du Reich en son absence. Je voulais donc vous informer de l'immense joie qui submerge l'Autriche et que vous pouvez entendre à la radio. Ribbentrop. Oui, c'est fantastique, n'est-ce pas ? Göring. Seyss Inquart craignait que le pays ne plonge dans la terreur ou la guerre civile. Il nous a demandé de venir immédiatement et nous avons aussitôt marché à la frontière afin d'éviter le chaos. Mais ce que Göring ignorait à ce moment-là, le 13 mars 1938, c'est que l'on mettrait un jour la main sur des échanges plus véridiques. Il avait demandé à ses propres services de noter ses conversations importantes. Il fallait que l'histoire puisse un jour s'en emparer. Il écrirait peut-être dans sa vieillesse sa guerre des Gaules, qui sait ? Et il pourrait s'appuyer sur les notes qui auraient été prises à la volée aux grands épisodes de sa carrière. Ce qu'il ignorait, c'est que ces notes, au lieu de terminer sur son bureau à l'âge de la retraite, finiraient entre les mains d'un procureur, ici, à Nuremberg. On put alors entendre d'autres scènes. Celle qui s'était jouée entre Berlin et Vienne, 2 jours auparavant, dans la nuit du 11 mars, lorsqu'il croyait que personne ne l'écoutait, personne d'autre que Seyss Inquart ou Dombrovski, le conseiller d'ambassade qui servait d'intermédiaire, et bien sûr, celui qui notait pour la postérité leur conversation prodigieuse. Il ne savait pas qu'en réalité tout le monde l'écoutait. Oh, pas à la minute où il parlait, non. Mais depuis le futur, justement. Depuis cette postérité qu'il guignait. C'est ainsi. Toutes les conversations que Göring a tenues ce soir-là sont en effet parfaitement archivées, disponibles. Les bombes les ont par miracle épargnées. Göring. Quand Seyss Inquart pense-t-il former son cabinet ? Dombrovski. À 21h15, Göring. Ce cabinet doit être formé à 19h30. Dombrovski. À 19h30. Göring. Kepler vous apportera les noms. Vous savez qui doit être ministre de la Justice. Dombrovski. Oui, oui. Göring. Dites le nom. Dombrovski. Votre beau-frère, n'est-ce pas ? Göring. C'est bien cela. Et d'heure en heure, Göring dicte son ordre du jour. Pas à pas. Et dans la brièveté des répliques, on entend le ton impérieux, le mépris. Le côté mafieux de cette affaire saute soudain aux yeux. À peine 20 minutes après la scène que nous venons de lire, Seyss Inquart rappelle. Göring lui ordonne de retourner voir Miklas et de bien lui faire comprendre que s'il ne le nomme pas chancelier avant 19h30, une invasion peut fondre sur l'Autriche. On est bien loin de la gentille conversation entre Göring et Ribbentrop, à l'intention des espions anglais, bien loin des libérateurs de l'Autriche. Mais une chose doit encore retenir l'attention. C'est l'expression qu'emploie Göring, cette menace de fondre sur l'Autriche. On lui colle aussitôt des images terrifiantes. Mais il faut rembobiner le fil pour bien comprendre. Il faut oublier ce que l'on croit savoir. Il faut oublier la guerre. Il faut se défaire des actualités de l'époque, des montages de Goebbels, de toute sa propagande. Il faut se souvenir qu'à cet instant, la Blitzkrieg n'est rien. Elle n'est qu'un embouteillage de Panzer. Elle n'est qu'une gigantesque panne de moteur sur les nationales autrichiennes. Elle n'est rien d'autre que la fureur des hommes, un mot venu plus tard, comme un coup de poker. Et ce qui étonne dans cette guerre, c'est la réussite inouïe du culot, dont on doit retenir une chose, le monde cède au bluff. Même le monde le plus sérieux, le plus rigide, même le vieil ordre, s'il ne cède jamais à l'exigence de justice, s'il ne plie jamais devant le peuple qui s'insurge, plie devant le bluff. À Nuremberg, Göring écouta la lecture d'Aldermann, le menton posé sur le poing. Par moments, il sourit. Les protagonistes de la scène sont réunis dans la même pièce. Ils ne sont plus à Berlin, à Vienne et à Londres. Ils sont à quelques mètres les uns des autres. Ribbentrop et son dîner d'adieu. Seyss Inquart et sa servilité de capot, Göring et ses méthodes de gangster. Enfin, pour clore la démonstration, Alderman revint au 13 mars. Il lut la fin du petit dialogue. Il la lut de ce ton monotone qui lui ôtait tout prestige et la ravalait à ce qu'elle était, une pure et simple crapulerie. Göring. Le temps est merveilleux ici. Le ciel bleu, je suis assis sur mon balcon sous des couvertures à l'air frais. Je suis en train de boire le café. Les oiseaux gazouillent. Je peux entendre à la radio l'enthousiasme des Autrichiens. Ribbentrop. C'est merveilleux. À cet instant, sous l'horloge, dans le box des accusés, le temps s'arrête. Il se passe quelque chose. Toute la salle se tourne vers eux. Comme Kessel, envoyé spécial de François au tribunal de Nuremberg, le raconte, en entendant ce mot « merveilleux », Göring se mit à rire. Au souvenir de cette exclamation surjouée, sentant peut-être combien cette réplique de théâtre était aux antipodes de la grande histoire, de sa décence, de l'idée que l'on se fait des grands événements, Göring regarda Ribbentrop et se mit à rire. Et Ribbentrop, à son tour, fut secoué d'un rire nerveux. Face au tribunal international, devant leurs juges, devant les journalistes du monde entier, ils ne purent se retenir de rire. Au milieu des ruines.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous revenons à la suite du récit de Éric Vuillard, l'ordre du jour, après cette pause habituelle et musicale. Le magasin des accessoires. La vérité est dispersée dans toutes sortes de poussières. Ainsi, bien avant de se faire appeler Anders, autre, l'intellectuel allemand Gunther Stern, émigré aux États-Unis, pauvre, juif, contraint de gagner une vie de petit boulot, devenu accessoiriste plus de 40 ans, travaille à l'Hollywood Custom Palace, dont les galeries recèlent tout le passé vestimentaire de l'homme. C'est que l'Hollywood Custom Palace est un loueur de costumes. Il loue au cinéma les habits de Cléopâtre ou de Danton, ceux des jongleurs du Moyen-Âge ou des bourgeois de Calais. On y trouve tout. Toute la défrogue de l'humanité, néant sublime, miette de gloire dispersée sur les rayonnages, simulacre de souvenirs. Ici, on tient en réserve les épées de bois, les couronnes de carton, les cloisons de papier. Tout est faux. Le charbon sur le col du mineur, l'usure au genou du mendiant, le sang au cou du condamné, l'histoire est un spectacle. On y croise tout ce qui a été. Les vêtements des martyrs sont étendus et sèchent sur les mêmes fils que les toges des patriciens. On ne se distingue pas. Il paraît que les images, le cinéma, les photographies, ce n'est pas le monde. Je n'en suis pas très sûr. Ainsi, les étages du bâtiment, où les époques s'amoncellent, laissent une impression d'absurde ou de folie. Comme si on était au cœur de la grandeur, mais coincé, rapetissé. Que la poussière n'était que poudre. L'usure, illusion, la saleté, maquillage et l'apparence, la vérité des choses. Mais toute l'humanité, c'est décidément trop. Et là, on empile trop de défroques, amasse trop de variantes, accumule trop d'époques. On y trouve le drapé romain du péplum, l'égyptien de pacotille, le babylonien de cirque, le grec de contrebande. Mais aussi toutes les variantes du pagne, du paréo, le sari coloré, des femmes d'Inde, le riche baloukari du Bengale, le coton léger de Pondichéry. On y déniche encore tous les sarongs malais, les vêtements à enfiler, poncho, huc, les premiers costumes à manches tuniques, blouses et chemises, le caftan, la peau de bête de la préhistoire et tous les ancêtres des pantalons. C'est une caverne merveilleuse. Certes, le travail n'y est pas très reluisant. Plier les vêtements du cadavre de Pancho Villa, ajuster la collerette de Marie Stuart, remettre le chapeau de Napoléon sur son étagère. Mais quel privilège tout de même, être un accessoiriste de l'histoire. Dans son journal, Gunther Stern insiste. Tous les vêtements sont là, même ceux qu'ont revêtus les singes de cirque ou les petits chiens de Deauville. Depuis la feuille de vigne d'Adam jusqu'aux bottes des S.A., il y a tout. Mais le plus surprenant, ce n'est pas qu'on trouve ici tous les costumes de la Terre, c'est qu'on y trouve déjà les costumes des nazis. Et ironie de l'affaire, comme le note Gunther Stern, c'est un juif qui cire leurs bottes. Car il faut bien les entretenir, toutes ces nippes. et comme n'importe quel employé, Gunther Stern doit cirer les bottes des nazis avec autant d'application qu'il brosse les cothurnes des gladiateurs ou les sandales des Chinois. Ici, le drame réel n'est pas de mise. Il faut que les costumes soient prêts pour les tournages, pour la grande mise en scène du monde, et ils seront prêts. Et ils sont plus vrais que nature, plus exacts que ceux qui traînent dans les musées. Réplique parfaite, auquel ne manque pas un bouton, pas un fil, et qui, comme dans les rayonnages des boutiques, existe pour chaque gabarit. Mais ces vêtements ne doivent pas seulement être des répliques indiscutables, ils doivent aussi être élimés, troués, salis. Et oui, le monde n'est pas un défilé de mode, et le cinéma doit faire illusion. Il faut donc entretenir de fausses déchirures, de fausses taches, de fausses rouilles. Il faut donner l'impression que le temps est déjà passé. Ainsi, bien avant que la bataille de Stalingrad n'ait eu lieu, avant que le plan Barbarossa n'ait été tracé, avant qu'il n'ait été pensé, décidé, avant la campagne de France, avant même que les Allemands aient nourri la moindre idée de l'entreprendre, la guerre est déjà là, sur les rayonnages du spectacle. La grande machine américaine semble s'être déjà emparée de son immense tumulte. Elle ne racontera la guerre que sous forme d'exploit. Elle en fera un revenu, un thème, une bonne affaire. Au bout du compte, ce ne sont ni les Panzers, ni les Stuka, ni les orgues de Staline qui refont les choses et les remodèlent et les froissent, non. C'est là-bas, dans cette Californie industrieuse, entre quelques boulevards au carré, à l'angle d'un donut et d'une pompe à essence, que la densité de nos existences adopte le ton des certitudes collectives. C'est là-bas, dans les premiers supermarchés, devant les premiers téléviseurs, entre les grille-pains et la calculette, que le monde se raconte à sa vraie cadence, celle qu'il va adopter en définitive. Et tandis que le fourreur en était à préparer son agression contre la France, alors que son état-major en était à ressucer les vieilles formules de Schlieffen, et que les mécaniciens en étaient encore à réparer leur Panzer, Hollywood avait déjà déposé leurs costumes sur les rayonnages du passé. Ils étaient pendus au cintre des affaires classées, pliés et empilés au rayon des vieilleries. Oui, bien avant que la guerre ne commence, tandis que le brin aveugle et sourd rend ses décrets sur la loterie, tandis qu'Halifax joue les complices et que le peuple effaré d'Autriche croit apercevoir son destin dans la silhouette d'un fou, les costumes des militaires nazis sont déjà remisés au magasin des accessoires. La mélodie du bonheur. Le 15 mars, devant le palais impérial, sur toute l'étendue de la place, jusque sur la grande statue équestre de Charles d'Autriche, la foule, la pauvre foule autrichienne abusée, malmenée, mais finalement consentante, est venue l'acclamer. Si l'on soulève les haillons hideux de l'histoire, on trouve cela. La hiérarchie contre l'égalité et l'ordre contre la liberté. Ainsi, égarés par une idée de nation mesquine et dangereuse, sans avenir, cette foule immense, frustrée par une précédente défaite, tend le bras en l'air. Là, depuis le balcon du palais de Sissi, d'une voix terriblement étrange, lyrique, inquiétante, terminant son discours en un cri rauque et déplaisant, Hitler. Il vocifère un allemand très proche de la langue inventée plus tard par Chaplin, faite d'imprécations. Et l'on ne distingue que quelques mots épars, guerre, juif, monde. Ici, la foule hurle. Elle est innombrable. Le fourreur vient de déclarer l'Anschluss depuis le balcon. Les acclamations sont si unanimes, si puissantes, si jaillissantes, qu'on peut se demander si ce n'est pas toujours la même foule qu'on entend dans les actualités de cette époque, la même bande-son. Car ce sont des films que l'on regarde. Ce sont des films d'information ou de propagande qui nous présentent cette histoire. Ce sont eux qui ont fabriqué notre connaissance intime. Et tout ce que nous pensons est soumis à ce fond de toile homogène. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Et nous reviendrons demain à la suite de ce récit de Éric Vuillard, L'ordre du jour. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.